France Culture, il est midi. Bonjour à tous. Dans quelques instants, la première partie de la Grande Table. Mais avant cela, les titres des informations qui seront développées à 12h30. Bonjour Antoine Mercier.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Un accord la nuit dernière sur le régime d'assurance chômage des intermittents. Parmi les principales avancées, selon la CGT, l'ouverture des droits à l'indemnisation, aussi bien pour les artistes que pour les techniciens à partir de 507 heures travaillées sur 12 mois. Précision tout à l'heure avec Bastien Desseninck. Pour la quatrième fois en moins de 2 mois, 7 syndicats appellent à manifester aujourd'hui en France pour réclamer toujours le retrait de la loi travail qui va être débattue, cette loi, à partir de mardi prochain à l'Assemblée. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras appelle aux instances politiques de l'Union européenne pour tenter de débloquer les négociations avec les créanciers de son pays. Appel au président du Conseil européen Donald Tusk qui intervient après un report sinédié d'une réunion extraordinaire des ministres de l'Europe qui devait se réunir initialement aujourd'hui. Le discours de Donald Trump sur la politique étrangère, le favori des primaire républicaine dévoile son programme. L'Amérique d'abord. Ma politique étrangère placera toujours les intérêts des Américains et la sécurité de l'Amérique avant toute chose. Analyse de ce discours tout à l'heure avec Nadine Epstein. Et puis on parlera de cette enquête que vient de publier l'Institut contre le cancer. Les risques de développer un cancer au cours de la vie diminuent et la mortalité par cancer poursuit aussi une tendance à la baisse en France. Voilà pour les grands titres. C'est à vous, Raphaël Bourgois, la Grande Table.
Merci Antoine. On vous retrouve tout à l'heure à 12h55. Vous resterez à 12h30 d'abord, mais vous resterez avec nous à 12h55. Notre invité sera l'anthropologue Scott Atran qui publie « L'État islamique est une révolution ». C'est aux éditions « Les liens qui libèrent », un essai court et limpide qui nous invite à prendre au sérieux pour pouvoir mieux le combattre, le projet politique porté par Daesh. Mais tout d'abord, plongez aux sources du Koul.
Thank you.
La contrebasse de Ricardo Delfra, la trompette d'Éric Truffaz, où je suis un peu tout seul dans ce studio 168 de la Maison de la Radio, avec ces deux magnifiques musiciens qui viennent de nous interpréter une version inédite, live, de My Funny Valentine, ce standard de Chet Baker, rêvé pour commencer notre émission consacrée à ce jazzman dont un disque hommage sort autour de Chet, c'est chez Decca Records, un disque auquel a participé Éric Truffaz d'ailleurs. On retrouve aussi d'autres trompettistes comme Stéphane Belmondo ou R.L. Besson, mais aussi des chanteurs et des musiciens plus inattendus, Camélia Jordana, Hugh Coltman, IBI ou encore Benjamin Biolay. Tout cela nous a évidemment donné envie de revenir sur l'œuvre, la musique, la figure de ce très très grand chanteur et trompettiste avec deux invités de marque, le contrebassiste Ricardo Delfra, bonjour.
Bonjour.
Vous avez enregistré pas moins de 12 albums avec Chet Baker, vous lui avez rendu hommage en 2014, c'était dans un album My Chet, My Song chez Crystal Records, et c'était d'ailleurs R.L. Besson que je viens de citer qui jouait la trompette, je crois, sur cette...
Entre autres, Bruno Ruder au piano, Billy Hart à la batterie et Pierrick Pedron au saxophone et l'orchestre des films de Babelsberg.
Évidemment, c'est ça qui est magnifique dans cet album. On aura l'occasion d'en écouter un morceau. C'était évidemment la version orchestrale de ces morceaux de Chet Baker. Et donc Éric Truffaz aussi s'est installé autour de la table. Bonjour Éric Truffaz.
Bonjour.
Vous êtes donc vous interprétez donc dans cet album autour de Chet The Thrill Is Gone, avec Camélia Jordana au chant. Votre dernier album à vous est sorti il y a peu, c'était en janvier, chez Parlophone, Denis. Vous proposiez aussi des collaborations avec des chanteurs, en dehors, on va dire, des cadres du jazz, Rocky Traoré ou Oxmo Puccino.
J'ai toujours collaboré avec plaisir avec des chanteurs, parce qu'ils permettent de changer la forme de la musique, et c'est un petit peu un pont entre le jazz et puis la musique plus populaire.
Voilà qui est dit, et c'est vrai que Chet Baker, en même temps, voilà, c'est une voix, aussi bien une voix de trompette qu'une voix qu'on entendra aussi pendant l'émission.
Ah, Chet Baker, c'est un merveilleux chanteur, quoi. Il y a deux merveilleux chanteurs trompettistes, c'est Louis Armstrong et Chet Baker.
Alors j'ai une première question, à vrai dire, je me suis un peu creusé la tête pour la première question, et puis j'ai rien trouvé de très original, alors je me suis dit, j'allais tout simplement vous demander pourquoi Chet Baker, Ricardo Delfra.
Les hasards de la vie. Je voudrais juste souligner une chose. On dit la musique de Chet Baker. Vous-même, vous avez dit My Funny Valentine, Chet Baker. En fait, c'est un morceau de Richard Rodgers et Lawrence Hart. Mais c'est tellement devenu un morceau personnalisé avec l'empreinte de Chet que devient sa composition, effectivement. Et c'est ça sa force, je crois. C'est-à-dire, c'est un interprète extraordinaire. C'était pas un théoricien. C'était un mélodiste, un grand mélodiste avec une nature assez extraordinaire pour faire de la musique. J'ai rarement connu les mêmes genres de vibrations que j'ai connues avec lui sur scène, avec un savoir-faire, je dirais, naturel pour ce qui est la variation. Et Chet Baker, pour moi, c'est les hasards, parce qu'en fait, si vous voulez, vous entendez cet accent, je le fais pas exprès, mais en fait, je suis né en Italie. J'ai passé plus de temps en France maintenant qu'en Italie, mais c'est quand même lui qui m'a fait changer de pays, m'a fait découvrir tout un monde. Ici, j'ai connu ma première compagne, je suis resté, j'ai connu beaucoup de musiciens français et autres, et j'y suis resté. Donc pour moi, Chet, c'est non seulement la musique, mais c'est aussi un moment charnière de ma vie. Et c'est là que je voulais célébrer dans ce disque My Chet, My Song, parce que vous savez que Chet a joué avec beaucoup de monde, beaucoup de bassistes ont joué avec lui, mais j'avais envie de dire mon histoire avec Chet et ma chanson, si possible.
Éric Truffaz, même question, pourquoi Chet Baker?
Chet Baker, j'ai aimé très vite son son. Il a un son...
On peut le définir, ce son, le décrire?
Oui, c'est un son qui est très très rond et qui s'épaissit en mesure de sa vie. C'est-à-dire, plus vieilli, plus le son devient ample. Et c'est une voix, et c'est aussi un sens parfait de la mélodie et du rythme. Et c'était, comme l'a dit Ricardo, une invention mélodique parfaite. Ce qui pour moi me touche beaucoup dans le jazz. Thank you.
Love for Sale du CD Live at the Ronnie Scott in London. Ricardo Delfra, c'est vous qu'on entend à la basse. C'était important de passer ce morceau d'abord parce que Love for Sale est évidemment un titre très connu. J'ose même plus dire deux, je sais pas parce que je vais
The Cole Porter.
The Cole Porter, voilà, cette fois-ci, interprété donc ici par Chet Baker et par vous-même, Ricardo Delfra. C'était important de passer ce morceau aussi parce que c'est un live et le live avait une importance toute particulière. Ceux qui ont eu la chance de voir Chet Baker en live disent que c'était quelque chose qu'il fallait vivre.
Et là, c'est Michel Graillet au piano. Hélas, disparu. Et effectivement, je disais tantôt, il y a beaucoup de disques de Chet. Il faisait beaucoup de disques pour des raisons diverses. Il avait besoin aussi de... C'était un hyperactif pour des raisons diverses. Mais les concerts, c'était extraordinaire parce qu'en fait, il arrivait à créer une ambiance. Déjà, ne fût-ce que dans la salle, avant de jouer, il y avait déjà une atmosphère particulière. Il avait un charisme très fort. Et ça s'entend naturellement dans sa musique. Et donc, effectivement, les concerts live, c'est un peu une... Des fois, il y a des documents d'ailleurs où les solos ils sont très très longs. Il y a des morceaux qui durent 16-17 minutes. Là, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, il était capable de passer de la trompette, puis après de laisser les solos au piano, et puis de reprendre avec du scat, avec la voix. Et donc, les morceaux étaient très longs. C'était un explorateur de musique. Et véritablement.
Eric Truffaz, on entend ce son dont vous nous parliez. Là, on est plutôt donc à la fin de la vie de Chet Baker. Donc ce son s'est amplifié, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose qui est important dans le jeu de Chet Baker. Je me suis rendu compte d'abord en l'écoutant et puis en vous lisant un petit peu l'un et l'autre dans des interviews précédentes. C'est la place qu'il donne aux respirations et au silence. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça, Eric Truffaz? En quoi le jeu de Chet Baker nous enseigne-t-il, vous enseigne-t-il, vous trompettiste, sur l'importance laissée aux respirations et au silence?
C'est-à-dire que la façon dont il construit son discours est très cohérent. Et il a une rythmique tellement parfaite qu'il peut se permettre de parler quand c'est nécessaire, de façon très pertinente. Et je pense même que... Alors là, peut-être je vais faire bondir... certains puristes, mais je pense qu'il a pu influencer Miles Davis à un moment, Chet Baker.
Dans ce sens-là?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il...
Ils s'écoutaient beaucoup mutuellement. Hein. Bon, Miles Davis a influencé Chet Baker aussi. Mais ils s'écoutaient beaucoup mutuellement. Et il faut quand même savoir que Chet Baker, à un certain moment, a été premier en tête du classement de Downbeats, qui était le classement de tous les jazzman américains. Et il était le chanteur et le trompettiste... plus en vue.
Qu'est-ce que vous en pensez, Ricardo Delfra? L'influence de Chet Baker sur Miles Davis, vous pensez plus?
Je pense qu'à un moment donné, effectivement, ils étaient un peu des pères. Et effectivement, les Downbeat Paul de je ne sais plus quelle année les donnaient gagnants. Et c'était pour lui une tension, on en a parlé quelques fois. C'était une tension extraordinaire, très forte.
C'est-à-dire qu'il est devenu une vraie star, véritablement, même suivi par les tabloïds, enfin par des magazines. Et ça a pu même éclipser parfois un petit peu le regard qu'on avait sur sa musique. On ne parlait plus que de ses déboires, la drogue, oui. Évidemment, qui s'est très connue. Mais voilà, et on oubliait de parler de
ce qui restera. Ouais. Heureusement, ce qui restera, c'est un message de sérénité et de grande poésie. Avec aussi, naturellement, un message musical restant très proche de la mélodie et d'ailleurs de certaines mélodies qui, comme vous disiez, ce sont tellement les siennes qu'on pense que c'est lui qui les a écrites. Mais en tout cas, je me souviens aussi sous la route avec lui, on écoutait du Miles Davis. Effectivement, il était très humble par rapport à ça. Donc on était capable d'écouter Miles Davis, mais aussi de la musique beaucoup plus moderne, comme du Wayne Shorter ou du Richie Beirach, du Dave Liebman. Il était assez extraordinaire. Les gens ne connaissent pas forcément cet aspect-là. Effectivement, comme disait tantôt Eric, à la fin de sa vie, il avait quand même trouvé une sonorité et il explorait d'autres musiques que simplement les standards. Et c'est ça, je pense que c'est un message aussi important pour la jeune génération.
Alors, on a entendu sa trompette, c'est important aussi d'entendre la voix, évidemment, de Chet Baker.
I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled. too easily. I fall in love too fast.
The Last Great Concert, c'est le titre de cet album où on trouve I Fall in Love Too Easily, une version orchestrale, là aussi, Ricardo Delfra.
Oui, moi j'aime beaucoup l'orchestre. Ce disque, ce n'est pas mon favori, mais c'est vrai que c'est touchant, en sachant que c'était la dernière époque de sa vie.
Moi, ce que je dois dire, c'est que il y a à peu près 20 ans, on avait fait une émission de télé avec Ricardo Delfra, en hommage à Chet Baker. C'était en Suisse, à Genève. Et Ricardo m'avait raconté une anecdote que j'avais trouvée extraordinaire, qui est tout le temps restée dans ma tête, c'est que quand vous faisiez les voyages, Chet Baker te demandait de chanter des lignes de basse et il chantait par-dessus. Ça, je trouve, c'est... il a vécu une expérience...
Et on scattait aussi,
ouais.
Ensemble, sous les harmonies de quelques morceaux.
Bah, c'est extraordinaire.
Ce qui frappe aussi quand on écoute Chet Baker chanter, c'est la proximité finalement entre sa voix et son jeu de trompette. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se confond là? Il était capable, vous l'avez dit tout à l'heure, l'un et l'autre, de prendre sa trompette, de la retirer, de chanter. Voilà. Et il y a quelque chose qui se confond presque.
En tout cas, les phrases qu'il chante quand il improvise, ce sont les mêmes que lorsqu'il joue. Et le son est assez proche.
Alors il y a une question qu'il faut vous poser à l'un et à l'autre, puisque c'est une question qui se pose, hein, qui est récurrente dans le jazz, aussi dans d'autres formes de musique, c'est la question de l'interprétation de standards. Comment redonner vie à des morceaux qui ont déjà tellement été joués? Comment est-ce que vous avez abordé l'un et l'autre, Chet Baker, vous, Eric Truffaz, dans cet album autour de Chet, enfin dans un morceau de cet album autour de Chet, ou dans My Chet, My Song, Ricardo Delfra, Eric Truffaz?
Bon, pour ce qui concerne l'album paru chez Decca, moi je suis invité par le producteur. C'est ce qui fait l'originalité de l'album, c'est qu'il y a eu un arrangeur qui s'appelle Clément Ducol qui a un peu décalé cette musique pour pas qu'elle sonne trop comme la musique de Broadway, des standards, quoi. Mais par rapport à Chet, je pense que ce qui est important, c'est comme par rapport aux grands interprètes, c'est-à-dire que sa personnalité est tellement forte, c'est qu'il peut interpréter des choses qui ont déjà été faites maintes fois et ça reste magique.
Ricardo Delfra, pour préciser ma question, c'est surtout la question de savoir comment être au présent finalement quand on interprète du Chet Baker. Il y a sur l'album My Chet, My Song, il y a une chanson Wind on an Open Book et vous racontez que c'est aussi une façon de... Oui, d'interpréter le présent.
Un livre ouvert, du vent qui bouge les pages, des pages déjà lues qui reviennent devant vos yeux, et vous réalisez d'une façon différente ces chapitres-là. Et du coup, jouer My Funny Valentine ou Love for Sale, comme j'ai joué il y a 30 ans, ça n'a pas de sens. Ça serait juste un exercice de style que je pratique avec les étudiants au conservatoire. Mais quand il s'agit c'est super de faire des hommages, je trouve. C'est bien de faire des hommages parce que ça rappelle des artistes qui comptent et qui ont compté. Mais j'aime particulièrement souligner l'aspect temporel aussi de la chose. Et donc essayer de redonner vie à des morceaux en incluant alors personnellement, si possible, quelque chose de singulier, et notamment aussi, non seulement des idées musicales, mais une dramaturgie qui peut être traduite, si possible, par la musique.
The thrill is gone. I can see it in your eyes. I can feel. Feel your touch and realize the thrill is gone. The nights are cold. The love is all. I was grand.
The Thrill is Gone, Eric Truffaz. Vous êtes à la trompette, Camélia Jordana, à la chanson, au chant, pardon, excusez-moi, dans cet album autour de Chet. L'importance, on a compris, pour Chet Baker, c'était de raconter une histoire. Est-ce que vous aviez une histoire à raconter avec cette chanson, The Thrill is Gone?
Ah, moi, j'ai aucune histoire à raconter sur cette chanson. On l'a enregistrée très, très rapidement. Le titre me touche de cette chanson. Et puis, Camélia était absolument magnifique et touchante, puisqu'elle est très naturelle. J'aime beaucoup les gens qui viennent plutôt d'un monde autre que le jazz et qui chantent du jazz. Ça me touche beaucoup. Ça.
Mais on entend, elle travaille aussi le vibrato, le legato, comme cette phrase dont on parlait, très longue.
Oui, mais elle le fait très naturellement. Moi, je trouve ça magnifique. Hein. C'est une chanteuse que je ne la connaissais pas avant, mais elle vient plutôt de la variété et elle fait ça très bien.
Ricardo Delfra, sur cette idée, raconter une histoire, c'est important pour Chet Baker. C'était important pour Chet Baker, ça reste important pour vous?
Je pense que c'est important pour chaque musicien. On ne joue pas des notes qui n'ont pas de sens, tout est signifiant, jusqu'au silence d'ailleurs. C'est un amusement éventuellement, une exploration, mais la finalité c'est de raconter une histoire.
Et de donner une vision aussi quand on réinterprète ces chansons-là, quand on livre une interprétation finalement, c'est plus une vision qu'autre chose?
L'important, je pense, c'est d'être honnête avec soi-même et d'arriver à dire d'une façon ou d'une autre quelque chose de profond qu'on a en soi.
Alors on a commencé cette émission en vous écoutant dans votre interprétation inédite de My Funny Valentine. Il y a aussi un My Funny Valentine sur votre album My Chet, My Song, Ricardo Delfra. Vous m'avez dit même avant de préparer l'émission, j'ai osé m'attaquer à My Funny Valentine. Je propose de l'écouter évidemment et vous nous en direz quelques mots. Ricardo Delfra, c'est bien plus qu'une interprétation, c'est presque une réécriture du morceau là.
C'est carrément une réécriture, je me suis permis ça. C'est-à-dire que j'ai voulu essayer de traduire quelque chose de dramatique qui représente un moment de ma vie et ma pensée pour Chet. Et en même temps, il y a une sorte de vertige, puisqu'il n'y a pas de centre tonal au début, et on arrive là où là, par contre, la tonalité arrive et je chante, moi, si j'ose dire, avec ma basse, en tout cas j'essaie de le chanter, jusqu'au pont où en fait j'ai inclus des couleurs harmoniques plutôt majeures et donc plutôt heureuses. Donc c'est en même temps une façon de clore quelque chose et d'ouvrir une page d'espoir, un livre ouvert.
Encore le livre, on retrouve ce motif chanté avec sa basse. C'est vrai que c'est rare d'entendre dire ça, souvent on a un a priori sur cet instrument qui n'est pas très chantant.
Ah, moi, j'ai jamais eu d'a priori sur cet instrument.
J'imagine. On se quitte sur votre solo, Ricardo Delfra, dans cette interprétation, cette réécriture de Ma Funny Valentine sur l'album Chet My Song. Merci d'être venu avec Eric Truffaz pour qui interprète lui un des morceaux de l'album autour de Chet chez Decca Records. Nous parler de votre Chet Baker. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Vous avez des albums, des concerts, plus le temps de le dire, on les donnera évidemment sur le site de La Grande Table.